Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et nous accueillons Ophélie sur Europe 1. Bonsoir Ophélie.
Bonsoir.
Comment allez-vous ?
Bah, bien et vous ?
Bah, écoutez, moi ça me... Comme je le dis souvent, voilà, je le dis tout le temps, quand je suis là, assis, à vous écouter, je suis très content parce que je sais que je vais ressortir plus riche, en tout cas plus enrichi de l'histoire des autres. Donc voilà, c'est un beau métier que j'ai la chance de faire, de parler,
c'est
d'échanger
vrai.
Avec les autres. Donc voilà, donc je suis très content, merci. Alors, dites-moi ce qui vous amène, Ophélie.
Bah alors moi, en fait, je suis sujette à des crises d'angoisse, voire même des crises de panique, en fait. Et voilà, des fois, un mélange des deux. Donc, je vous dis pas le cocktail au final. Et j'arrive, en fait, à me soigner d'une façon assez originale.
C'est-à-dire ?
Bien, en fait, je fais un métier qui est pas banal, en fait. Si vous voulez, moi, je suis dans le monde artistique. Donc le fait voilà de faire un peu de radio comme vous en fait parler avec des gens de ce que je fais etc, c'est vrai que ça m'aide un petit peu à combattre mes angoisses et mes crises de panique.
Oui.
Et donc moi en fait je suis performeur de Shakira en fait.
Performeur de Shakira, c'est-à-dire?
Oui. Bien en fait vous avez donc les sosies voilà donc eux qui ont une ressemblance physique avec l'idole qu'ils représentent sur scène et puis après vous avez les performeurs qui eux n'ont aucune ressemblance physique avec l'artiste mais eux en revanche voilà nous on a les costumes, la danse, éventuellement si on chante en vrai ce qui n'est pas mon cas mais voilà on essaye d'imiter vraiment au mieux notre artiste sur scène et voilà de donner le meilleur de nous-mêmes pour le représenter ou la représenter.
Mmh. Alors, en fait, ce côté hypochondriaque, hein, il dure depuis... Vous l'avez depuis quel âge, en fait, exactement?
Je compte plus trop les années, parce que ça fait quand même... je crois que j'ai ça depuis toute petite. Alors, mes parents me disent que déjà, bébé, j'étais... Bon, pas hypochondriaque, mais disons que voilà, j'étais quelqu'un de très nerveuse. Après les crises d'angoisse et tout ça, je pense que ça a dû se déclencher au collège. J'étais élève dans un lycée, un collège-lycée plutôt, pardon, qui était dans le 93 et il y avait tout le temps des bagarres, des classes qui prenaient feu. Enfin voilà, c'était pas très agréable en fait. Et je pense que mes crises ont dû se déclencher à partir de là. Parce qu'avant, j'étais pas du tout comme ça, quoi. Je vivais vraiment au jour le jour, sans me poser de questions, en fait.
Mmh. En fait, c'est la violence de la société hein, qui vous a fragilisé, mmh. En gros. C'est de ça dont on parle.
Oui, voilà. En fait, je vivais donc déjà, j'étais dans une cité qui était pas très, qui avait pas une très bonne réputation,
oui.
le Londo.
Oui. Où est-ce
donc,
que c'est ça ?
Voilà, c'est à côté de Noisy-le-Sec.
D'accord.
Donc il y avait pas mal de bandes de jeunes qui traînaient en bas. Donc moi qui suis pas un peu timide et qui a un peu peur de tout, je n'osais pas sortir jouer dehors puisqu'il y avait des jeunes qui fumaient, voire même qui se droguaient. Enfin voilà, c'était pas. Et au collège c'était pire en fait. Toute cette racaille de cette cité se retrouvait dans le collège où j'allais en fait.
D'accord. Et on peut imaginer...
Donc j'allais un peu à reculons.
Ouais, oui, on peut imaginer, malheureusement, en fait, puisque l'école est obligatoire en France, qu'elle est, je le rappelle, gratuite. Et c'est très important hein, de parler de ça. L'école est gratuite et obligatoire. Ça veut dire que dans ce pays, on a la chance d'avoir un engagement historique, culturel, hein, politique, de ne pas laisser tomber qui que ce soit. Je dis ça parce que, vous savez, je trouve qu'on est dans une société de c'est tout le temps de la faute des autres quand vous galérez. Et justement, quand vous parlez de cette partie que vous appelez la racaille, souvent, ce groupe de jeunes qui est une minorité hein, dans la cité fait beaucoup parler d'elle et donc fait beaucoup de mal au reste de la communauté. Et en plus de ça, à l'école, bien évidemment, pose des problèmes, de gros problèmes pour les profs, mais on le voit aussi pour les autres dont vous faisiez partie, parce que Et vous étiez dans la peur, en fait. Vous n'étiez jamais en sécurité.
Non, jamais, non.
Mais ouais.
Non, parce que je savais pas ce qui... Quand j'y allais, si vous voulez, je savais pas ce qui allait se passer. Si c'est arrivé plusieurs fois que... comment je pourrais dire ça, que voilà, que j'aille en cours et puis qu'une heure après je ressorte parce que l'école est fermée, parce qu'il y a une ou deux classes qui étaient en feu, ou qu'il y avait une bagarre, ou que un événement comme ça, quoi. Donc c'est vrai que quand j'y allais, j'avais un peu la boule au ventre, voilà, voire même beaucoup même.
Oui. Ouais, ouais. Et donc de là est née, en fait, ce sont des crises de panique au début qui sont nées. C'est quoi? C'est une angoisse? Sous quelle forme c'est arrivé?
Au début, je pourrais pas trop vraiment décrire, parce que si vous voulez, ça se déclenche soudainement.
Ouais.
Et puis c'est différent, en fait. Ça peut être une petite crise mineure que je peux. Qui va se passer au bout de 5 minutes, comme là en ce moment, je traverse une passe où j'ai une crise qui dure depuis une journée et demie.
D'accord.
Donc c'est très différent. Ça se déclenche par un nœud à l'estomac, dans la gorge, les nerfs qui sautent dans la gorge, des tremblements intérieurs, sueur, sensation de visage qui chauffe, comme si que je m'étais collé à un radiateur. Donc ça peut être plein de trucs comme ça, et c'est très différent. C'est jamais la même chose.
Mmh. On va continuer à l'évoquer ensemble, Ophélie, temps d'écouter l'information sur Europe 1. On se retrouve tout de suite après, d'accord?
D'accord.
À tout de suite.
Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
J'espère que vous passez un agréable moment, que vous êtes confortablement installé. Après minuit sur Europe 1, c'est toujours votre libre antenne, et vous êtes bien accompagné par Florian, par Natacha, par Jean-François qui sont en régie. Vous pouvez laisser votre message sur le répondeur d'Europe 1 au 3921, et nous nous ferons un plaisir de vous rappeler, chers amis. Pour l'heure, je suis heureux de partager avec Ophélie. Ophélie qui évoque une situation comment dit-on une situation d'hypochondria, quoi, en fait,
Ophélie? D'hypochondrie, oui.
D'hypochondrie,
oui.
Voilà. D'hypochondrie, oui. Qui s'est déclenchée, comme vous le disiez tout à l'heure, par une situation d'insécurité, en fait, au cœur du collège et dans un quartier, dans une cité qui était plus ou moins assez animée, hein, où il se passait pas mal de choses.
Oui.
Et vous évoquez que depuis un jour et demi, là, vous étiez, vous ne vous sentiez pas très bien. Est-ce qu'il y a une raison qui a provoqué, en fait, le fait que depuis presque 36 heures, vous ne soyez pas bien?
Moi, le souci chez moi, c'est que quand j'ai une crise, si vous voulez, je me pose mille et une questions de comment la crise est arrivée, et pourquoi, et à cause de quoi. Et là, je pense en fait que ça vient du fait que j'ai repris mon travail, donc de performeur. Ça faisait 2 mois que j'avais pas fait de scène, etc. Donc le fait de reprendre, j'ai testé une nouvelle chorégraphie, des nouvelles chansons, donc c'est un stress supplémentaire. Après, il y a eu le fait aussi qu'il y a eu pas mal de changements parmi le staff, si vous voulez, avec qui je travaille. Et pas mal aussi de changements dans le planning. Donc je pense que ça a dû faire déborder le vase, si je puis dire.
Oui.
Et voilà, donc après, je pense qu'il y a la retombée. Et je vais pas tarder à refaire un autre spectacle, mais là ça va être un concours, en fait. Et je pense qu'un concours, c'est encore plus stressant qu'un simple show, en fait.
Mmh. Et en fait, au-delà de ces spectacles qui, on le voit, hein, vous provoquent un certain stress, mais qui en même temps vous font énormément de bien, hein, puisque au début de votre intervention, vous avez mis en avant cette activité comme étant quelque chose qui vous fait du bien. Est-ce que vous voyez quelqu'un, un médecin? Est-ce que vous faites, je sais pas, de l'hypnose ou de l'acupuncture ou du yoga ou des choses qui arrivent à vous déstresser un peu et qui vous font du bien pour cette hyperchondrie?
Non, en fait, j'ai testé tout ça il y a fort longtemps. Et puis, j'ai jamais eu de résultats concluants. J'ai même eu deux traitements, dont un qui me rendait plus mal que je ne l'étais. Donc, ça me rendait, si vous voulez, un peu comme quelqu'un qui était là, mais sans être là. Donc, complètement, comme si je dormais éveillée presque. Et les traitements, je les ai arrêtés. Après, j'ai essayé l'hypnose, comme vous l'avez dit.
Oui.
Après, j'ai essayé également les fleurs de Bach.
Oui.
De Bach,
est-ce que ça marche, ça?
Au début, ça marchait, mais je pense que c'est un peu, comme on dit, un effet placebo. Début, on se sent bien avec, et puis après, on en devient complètement dépendant. Et ça, c'est ce qui m'est arrivé, en fait, c'est que pour le moindre petit truc, je m'en mettais trois pchites sur la langue, c'était des pchites, et j'en devenais, oui, accro, en fait. Donc j'ai arrêté ça aussi, et maintenant je mâche des chewing-gums à la menthe, je regarde la télévision, je joue à la console, enfin j'essaie de m'occuper de l'esprit vraiment un maximum.
D'accord. Et
ça marche pas tout le temps.
Est-ce que vous avez essayé tout de même d'aller voir un thérapeute, de parler de vous, de vous, parce que j'entends beaucoup d'énergie, moi je sens beaucoup d'énergie chez vous, en tout cas, comment vous dire, ce que je sens chez vous, c'est beaucoup de vie, en fait, il y a de l'énergie dans votre voix, et comme si, en fait, c'est l'impression que vous me donnez, hein, peut-être je me trompe, comme si, à l'époque où tout ça s'est passé, vous vous êtes un peu perdu, en fait. Je m'explique. En fait, c'est comme si, à cette époque, le monde auquel vous rêviez, le monde, le vrai monde, hein, finalement, celui qui est beau, avec cette vie qui peut être très belle, c'est comme si on vous avait imposé un autre monde dans lequel vous vous êtes perdu parce que beaucoup d'agressivité, beaucoup de violence, et finalement, beaucoup de chocs. Et le fil à tirer, en fait, c'est celui qui va vous mener au retour à ce beau monde que vous avez imaginé, celui dans lequel vous devez finir par vivre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ?
Tout à fait, oui. Et c'est vrai, vous avez tout à fait raison. J'avais jamais entendu quelqu'un le dire, mais c'est vrai que oui, c'est tout à fait ça, en fait.
Parce que dans ce monde-là, en fait, où vous devez à nouveau revenir, c'est par volonté, en fait, qu'il faut revenir. C'est se formuler qu'à un moment, en fait, ce monde-là, dans lequel j'ai pris des coups, dans lequel j'ai eu peur, dans lequel j'ai même fait des blocages, et qui quelque part m'ont crispé, j'allais dire qui m'ont abîmé. Mais non, en fait, parce que je pense qu'aujourd'hui, les états de stress que vous vivez et les états de panique que vous pouvez vivre, eh bien, ils sont en rapport avec toute cette époque. Et que quelque part, il y a quelque chose de l'ordre du mental qui joue beaucoup là-dedans. C'est-à-dire, on sait quel pouvoir a le cerveau sur même nos organes, hein, sur notre respiration, sur notre état, hein, général. Et donc, à chaque fois que vous devez affronter un obstacle, inconsciemment, j'ai l'impression que cela vous renvoie à la violence que vous avez vécue, à l'instabilité, vous voyez, la non-confiance, l'instabilité, cette situation de peur que vous pouviez vivre dans le passé, que vous avez pu vivre dans le passé. Et finalement, aujourd'hui, je pense qu'il faut que vous réalisiez qu'il y a beaucoup de gens qui sont bien intentionnés, il y a beaucoup de gens qui sont bienveillants, il y a beaucoup de gens qui sont très gentils autour de vous, en tout cas sur cette terre et ici, en France même. Et que aujourd'hui, il faut aller vers ces gens-là et décider de ne plus se confronter aux crétins. Voilà, en gros. C'est-à-dire aux gens qui sont jaloux, aux gens qui sont violents, aux gens qui mentent, en fait, aux gens qui ne sont pas fidèles à ce que vous voulez, en fait. En fait, mettre un cadre à vos relations. Et c'est-à-dire, aujourd'hui, voir dans votre entourage, aujourd'hui, dans l'activité que vous pratiquez, ce qui vous fait du bien, en fait. Et vous faire du bien le plus longtemps possible, afin d'arriver à un état de... Ouf, vous voyez, de... Voilà, ça fait longtemps là que je suis bien parce que j'ai joué à la PlayStation un moment parce que j'avais envie, j'ai le droit. Voilà. J'ai le droit d'aller marcher ou j'ai le droit d'aller de prendre ma voiture ou un train et d'aller au bord de la mer marcher ou j'ai le droit d'aller voir cet ami là parce qu'il me fait du bien, j'ai le droit de faire ce que je veux en fait. Et un moment quand on fait ça un long moment, en tout cas, le moment nécessaire à ce qu'on se sente, pour qu'on se sente bien, pour qu'on perçoive un retour à, vous voyez, à une respiration, quelque chose, une connexion avec la vie, en fait. Mm-hmm. Eh bien, je pense que on n'a plus envie de quitter ça et que on n'a plus envie de s'embarrasser avec les tordus, en fait, parce que vous avez pas mal affronté de tordus, en fait, hein, dans votre vie.
Surtout dans mon métier, surtout.
Dans votre métier, ah oui.
Oui. Ça, il y a eu beaucoup de gens, bah, comme vous l'avez dit, la jalousie, surtout. Bon, je suis pas non plus, j'ai pas un corps de rêve, comme on peut dire. J'ai quand même des rondeurs. Bon. Et c'est vrai que il y a des gens qui me disent, ouais, elle fait Shakira, mais elle est grosse, ou elle lui ressemble pas du tout, etc. Et j'ai eu pas mal de critiques comme ça sur mon physique. Et ça, c'est vrai que ça fait très mal et ça m'enfonce encore un petit peu plus. Et ça rajoute de l'angoisse.
Ouais, ouais. Mais vous savez, le jour où vous aurez fait ce que je vous disais là, en fait, vous en aurez rien à faire de tout ça. En fait, la vie de ces personnes-là, en fait, ce qui compte, moi, ce soir, dans ce que vous me dites, c'est que vous avez envie de faire Shakira. Et moi, j'entends que vous avez envie de faire Shakira. Et vous allez faire Shakira parce que ça vous fait plaisir, parce que ça vous fait du bien. Et c'est vrai que c'est difficile, hein, ce que je vous dis de faire, d'arriver à s'en foutre de ce que les gens disent. Alors, c'est compliqué aussi. Je vais vous prendre un exemple.
Oui, c'est vrai.
Je vais vous prendre un exemple. Moi, par exemple, hein, je vous donne mon expérience. Eh bien, je ne vais pas sur Internet voir ce qui se raconte de moi. Même s'il se raconte beaucoup, beaucoup, beaucoup de gentilles choses, il suffit que je tombe sur une chose méchante pour que ça me mette dans une rogne, vous ne pouvez pas vous imaginer. En fait, il faut que je dépasse ça. Mais je sais que pour l'instant, je ne comprends pas et j'ai beaucoup de mal avec la méchanceté gratuite. Donc, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, sur le conseil, hein, même de mes amis, de mes collaborateurs qui travaillent avec moi ici à Europe 1 ou un peu partout où je travaille, je ne vais pas voir, je ne lis rien, je ne me préoccupe pas de ça. Et au final, je n'y pense même plus. C'est-à-dire que je peux faire un post Instagram parce que, vous savez, aujourd'hui, Instagram, quand on a un métier public, il faut. Mais je ne me préoccupe pas des commentaires qu'il va y avoir dessus. Je ne les lis pas. Je ne regarde même pas combien il y a de vues après. Je me détache de ces choses-là, en fait. Et lorsque je vous disais que je ne lisais pas donc les choses bien, parce que dans tout ça, je m'empêche de lire les choses bien aussi. Mais je préfère ça parce que je sais que j'ai encore du travail à faire sur le fait de comprendre qu'il y a des crétins très méchants, très très méchants, et qui ignorent qu'ils sont crétins. Donc c'est pour ça qu'ils sont aussi méchants. Vous voyez ? Parce que on aura du mal à arrêter avec les crétins qui s'ignorent crétins. Parce que quand quelqu'un est bête et méchant, comme il ignore qu'il est bête, il a du mal à jauger combien il est méchant. Vous comprenez ?
Donc, oui,
donc du coup, vous allez vous confronter à ça. Tant que vous ferez attention à ça, ça vous touchera. Le jour où vous ferez Shakira pour ceux qui vous aiment, ceux qui kiffent de vous regarder, ceux qui partagent ça avec vous, mais vous verrez combien ça vous élèvera. Qu'est-ce que vous pensez de ça ?
J'y prête attention sans y prêter attention. C'est vrai qu'au début, les critiques, c'est vrai que ça m'a beaucoup, beaucoup miné.
Ouais.
J'ai commencé en 2012, en fait. Et bon, à l'époque, je mettais des perruques parce que j'étais brune. Après, j'ai fini par me teindre les cheveux en blond pour déjà ne plus mettre ça. Et c'est vrai que, bon, au départ, c'est vrai que je prêtais pas mal attention à toutes ces critiques, et surtout physiques. Et à plusieurs reprises, c'est vrai que je me suis dit, mais je vais arrêter vu que les gens n'aiment pas. Ça sert à rien que je continue à m'entraîner des heures par jour pour des gens qui, au final, me disent, oh, elle danse mal, c'est pas comme elle. Faut savoir que j'ai pris zéro cours de danse dans aucune école. J'ai appris en la regardant sur Internet, dans ses clips, concerts, etc.
Oui.
Et c'est une simple question de mémoire, en fait. Et les gens ne comprennent pas, bien évidemment, comme vous avez dit, ils sont bêtes, ils resteront bêtes. Et bon, maintenant, c'est vrai que j'apprends à me dire, bon, bah, il aime pas, bah, écoute, il regarde d'ailleurs
très bien, très bien.
Suit, et puis voilà, quoi.
Mmh.
Et même, même quand je fais des émissions de télé, ça m'est arrivé de faire quelques plateaux télé. Au départ, j'allais voir les commentaires sous la vidéo. Et maintenant, je le fais plus. Je vais plus les voir parce que j'ai peur, en fait, de tomber sur des trucs
mais
comme
c'est
ça.
C'est très bien, c'est très
comme
bien,
vous.
Très bien, très bien.
Et comme vous, c'est vrai qu'après, ça, je vais me fixer sur un mauvais commentaire parmi 20 bons commentaires.
Je vous rassure, moi, je vais obséder dessus. Alors que comme ça, avec du recul, vous voyez, avec du recul. Aujourd'hui, je vous parle du dernier commentaire qui m'a blessé, en fait. C'est plus que ça me blesse, en fait. Parce que c'est gratuit, parce que c'est malhonnête. Ça se veut dégradant, en fait. Et j'ai du mal avec ces notions-là. Surtout parce que il y a cette notion de derrière ces commentaires, en plus d'anonymat.
C'est ça.
Donc, il y a une lâcheté derrière ça que j'ai du mal à dépasser, en fait. Mais, vous voyez, c'était quoi, il y a 15 jours, 3 semaines que ça m'est arrivé. Et pourtant, je vous jure que je n'y vais jamais. Mais bon, voilà, on était là avec Florian, on lisait les messages des internautes pour l'émission. Et on est obligé de les lire à un moment, voire parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écrivent via les réseaux sociaux pour témoigner sur l'antenne. Parce qu'ils m'ont connu, pas via Europe 1, mais via la télé ou quelque chose que j'ai écrit. Donc voilà, et on est tombé là-dessus. Et ben, comme ça maintenant avec du recul, je me dis, mais c'est rien, ce n'est qu'un commentaire idiot, méchant et lâche. Mais maintenant, le jour même, je vous jure que ça m'a pourri pendant 2 heures ou 3 heures, même 5 heures. J'ai bien fait une demi-journée là-dessus.
C'est vrai qu'on fait une fixette sur...
Et avec du recul, je me dis, mais quelle bêtise de faire ça, toi. Pourquoi tu... Quelle importance ça, quel intérêt, cela. Rien. Donc, en fait, quand je vous disais tout à l'heure de poser un cadre dans tout ça, à tout ça, en fait, c'est ça dont je vous parle. Tirer le fil qui vous ramène vers ce monde un peu plus doux, que vous ne créez pas, hein, que vous ne fabriquez pas, parce qu'il existe ce monde-là. Ce monde-là, c'est celui des gens qui sont bienveillants, parce qu'il y en a beaucoup, des gens qui sont bien éduqués, des gens qui, comme vous, ont envie de douceur un peu et de voilà, de beauté.
C'est pour ça
en
que
fait.
C'est pour ça que je m'entoure que de gens qui aiment ce que je fais. Ça fait 3 ans que je travaille avec une équipe super. Et Et voilà, bon, ils sont pas fans de Shakira comme moi, mais ils apprécient le fait qu'il y ait des heures de travail derrière, les costumes sont faits main, etc.
Oui.
Et ça, c'est vrai que c'est très appréciable, quoi.
Donc, tirer ce fil vers ce monde, voilà, comme je vous le disais, ce monde de personnes que vous avez déjà identifiées comme étant bienveillantes. Parlez-moi de ces personnes bienveillantes autour de vous. À qui vous pensez quand je vous dis ça?
Dans un premier lieu, à ma famille,
oui.
Qui sont toujours derrière moi, qui me conseillent, qui me soutiennent dans les bons comme dans les moments difficiles. Et bien sûr, toute l'équipe avec qui je travaille avec une équipe de 10 chanteurs,
oui.
Et chanteuses.
Oui.
Puis ils ont tous leur univers à eux, leur personnalité bien différente, et on se complète plutôt bien. Et on forme vraiment une formidable équipe. Et puis bon, j'ai quelques amis aussi du milieu du spectacle, des sosies, qui sont eux aussi bienveillants. On se connaît pour certains depuis plus de 10 ans. Donc eux, c'est vraiment important que je les ai dans mon cercle d'amis, enfin, dans mon entourage. C'est vraiment important pour moi.
Bon, et ces personnes-là sont très bienveillantes avec vous, je suppose. Elles sont attentive à votre interprétation de Shakira. C'est marrant parce que, vous savez, Shakira, c'est bien la femme de Gérald Piqué.
Oui, tout à fait, sa compagne, oui. Oui,
voilà. J'étais en train de me dire que, vous voyez, je pensais à lui et j'étais en train de me dire que s'il vous voyait dans une interprétation liée à Shakira, lui, il serait très content de vous voir et il serait loin de ces esprits tordus qui essaieraient de voir... vous savez, de faire une comparaison entre Shakira et n'importe qui, parce que Shakira, c'est Shakira. Et en fait, on peut être fan et aimer Shakira et vouloir lui rendre hommage, parce que quelque part, c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites en faisant tout ça.
Oui.
Et je pense que j'ai lu des choses d'ailleurs là-dessus. Hein. Il est très fier de sa femme et très fier de tout ce qu'elle entraîne dans son sillon.
C'est
une belle énergie, hein, cette femme-là. Hein.
Ok, oui.
Ouais, je connais pas très bien, pour tout vous dire, mais le peu de choses que je connais, j'ai vu que c'est une longue carrière déjà depuis un moment, et une belle carrière.
Depuis l'âge de 13-14 ans, elle a commencé à sortir son premier album et tout. C'est vrai qu'elle a un parcours qui est formidable et qui, franchement, pour moi, forge le respect, en fait.
Complètement. Complètement. Et allez-y.
Non, j'allais dire qu'elle aussi, elle a connu pas mal de déboires, du fait que moi, c'est une anecdote que je me rappelle souvent, c'est que elle faisait partie d'une chorale de son école, et son professeur lui a dit, il est hors de question que tu chantes, t'as une voix de chèvre.
Ouais.
Et ce jour-là, elle a dit, moi j'ai envie d'arrêter. Ses parents l'ont poussée et tout, et c'est je m'identifie à elle par rapport à son parcours, aux difficultés qu'elle a eues pour devenir la star internationale qu'elle est aujourd'hui, quoi.
Vous savez, ça arrive souvent, ça. Hein. Y a tout un tas de stars à qui on a dit « mais tu seras jamais bon à rien, tu seras... » Et voilà, qui y ont cru, ou alors qui ont eu des personnes autour, voilà, qui avaient assez de recul pour se dire « pas grave, nous on y croit, et on croit en toi, et vas-y ». Et donc, pour en revenir à votre situation, je crois vraiment que, je vous disais tout à l'heure, de poser un cadre. Et souvent, poser un cadre, on ne s'imagine pas qu'on peut poser un cadre dans sa vie, un cadre assez précis, en fait, un cadre très personnel. Mais c'est vraiment une volonté qu'on doit avoir et à laquelle il faut croire. Vous voyez ? Du coup, à partir du moment où on y croit, on voit que c'est possible de s'entourer de gens sensibles, de gens bienveillants, et vous avez la chance d'être entouré. Voilà, il m'arrive de parler à des personnes ici sur cette libre antenne qui n'ont pas la chance d'avoir autour d'elles pas mal de personnes. Vous pouvez vous appuyer, donc capitaliser là-dessus. Rapprochez-vous bien, de la famille, la famille d'artistes, et puis la famille, la vraie famille. Hein ? Au-delà de ça, en fait, je vous posais la question si vous aviez essayé quand même aussi de lâcher des choses chez un thérapeute et non, vous aviez peur de ça ou vous n'avez pas eu l'occasion, vous n'y avez jamais réfléchi ?
Bah, disons que j'ai essayé, en fait, j'ai vu plusieurs, j'en ai vu ouais, peut-être 3 ou 4,
ouais.
Et la plupart, en fait, j'avais l'impression qu'ils ne m'écoutaient pas. Ou alors qui rejetait la faute sur ma famille, genre bah, c'est à cause de ma famille si je suis comme ça, alors que franchement pas du tout, au contraire, si je puis dire, ils me supportent. Des fois c'est vrai que moi-même je me dis je suis insupportable, je me supporte pas, et c'est vrai que bon bah ma famille elle supporte mes crises, parce que j'en ai des fois voire même plusieurs par jour.
Oui.
Et voilà, eux ils arrivent à me supporter, et puis bon bah d'entendre de la part d'un psychologue qui me dit que c'est la faute de ma famille si je suis comme ça, honnêtement j'ai préféré ne pas continuer avec ce psy là, parce que je sais pas ce qu'il aurait pu me dire derrière, mais bon, sur le moment, c'est vrai que ce qu'il m'a dit, ça me marque encore, ça me fait pas trop plaisir, quoi.
Ouais, j'entends. Alors, revenons-en justement à la manifestation de tout ça, en fait. Quelle forme ça a lorsque vous dites que ça peut arriver plusieurs fois par jour ? Qu'entendez-vous par là ?
Bah en fait je peux être en train de dessiner quelque chose ou écrire un texte pour mes vidéos, parce que je fais également des vidéos sur YouTube, je présente les parfums de Shakira, etc. Je peux être en train d'écrire le texte de ma prochaine vidéo, puis d'un seul coup bah j'aurais une sensation d'insécurité, genre quelque chose qui va m'arriver précipitamment là dans la seconde.
Oui.
Après bon bah bien sûr nœud dans la poitrine, à l'estomac, les sueurs, etc., tout le packaging de symptômes d'angoisse, quoi.
Mm-hmm.
Puis après j'y pense, je vais ruminer, mais pourquoi, qu'est-ce qui va m'arriver après, après je me fais tout un tas de films dans ma tête et j'arrive pas à m'en défaire, et après bon, bah, voilà, après ça me dure bah, toute la journée et voire même une bonne partie de la soirée.
Et c'est sous forme de donc d'angoisse continue comme ça.
Mm-hmm.
Vous évoquiez les crises de panique aussi. Vous m'avez parlé de crises de panique aussi, hein ?
Oui, ça m'arrive, voire même des fois d'avoir angoisse et panique en même temps. Bah, je pense après, vu que je me suis inscrite dans des groupes sur Facebook, des groupes d'angoisse. Ils m'ont dit bah le fait d'avoir des crises de panique, c'est d'abord une crise d'angoisse qui bah on y pense, et puis on se rajoute d'autres symptômes, et puis bah ça gonfle, et puis ça finit en crise de panique. Donc voilà, bah je pars sur une crise d'angoisse, et après je à force de me poser trop de questions, bah je finis par une crise de panique.
Et à ça, en fait, vous n'avez aucun, alors vous me parliez des fleurs de Bac tout à l'heure, mais aucun médecin ne vous a orienté vers d'autres alors thérapies douces, hein, vous n'avez jamais tenté autre chose ?
Non, parce que bon, faut dire que j'ai baissé les bras, mais disons que je me dis bon, si les psychologues ne peuvent rien faire, si les médicaments ne font rien, si les fleurs de Bac non plus, si l'hypnose, s'il n'y a rien qui fonctionne, voilà, je suis peut-être forcée de vivre à vie avec ça, quoi.
Et vous évoquiez des médicaments, en fait. On vous a prescrit des benzos, hein, c'est ça ?
Antidépresseurs. Non, des
antidépresseurs.
Ouais. Et je vous dis ça, à l'époque, j'avais... je devais avoir peut-être 12, 13, voire 14.
Ouais.
Donc, on m'a prescrit des... Alors, dire les noms, je ne saurais plus, parce que je m'en souviens plus du tout. Mais c'était des... Je pense qu'ils m'ont donné des trucs beaucoup trop forts pour mon âge. Ils ont peut-être donné des médicaments d'adultes, pour les adultes, quoi. Et voilà, je me sentais comme une sorte de légume, être là sans être là, en fait.
D'accord.
Donc,
Oui, je comprends, ouais. Et puis, des antidépresseurs à 13-14 ans, c'est... Ouais, c'était très fort quand vous aviez 13-14 ans. Est-ce que vous trouvez que vous avez quel âge aujourd'hui ?
J'en ai 26, presque 27.
Bon, presque 27. Est-ce qu'avec le temps qui est passé, est-ce que vous trouvez que c'est moins fort, que les choses, vous maîtrisez mieux ? Est-ce que ça va mieux ?
Complètement, oui, parce qu'à l'époque, j'habitais encore donc dans le 93. J'ai déménagé depuis, justement à cause de tout ça, de tous ces problèmes dans la cité, au collège, etc. Donc, on a fini par déménager dans le 77. Et c'est vrai qu'à l'époque, je pouvais même pas sortir dehors. Dès l'instant qu'il y avait plus de 3 personnes autour de moi, j'étouffais. Donc je sortais pas, j'avais la tête qui tourne, je voyais plein de points noirs, dans mes yeux, je sais pas si c'est donc j'osais même pas sortir de chez moi, quoi. Donc et au fil des années, c'est vrai que bon, maintenant je prends les transports, bon, j'aime pas trop ça. Je déteste prendre le train, j'angoisse aussi. Oui, il y a quand même pas mal de choses qu'ont évolué dans le bon sens, finalement.
Lorsque vous aviez 14 ans,
Oui.
pardonnez-moi de vous poser toutes ces questions, parce que j'imagine ce qui vous a abîmé à l'époque, et j'en reviens à des chocs plutôt que quelque chose qui est irrémédiable. Je sens que, en plus, ça n'est pas innocemment que je vous posais la question si ça s'était amélioré depuis avec le temps. Et vous voyez, vous m'avez dit, mais fortement. Parce que, encore une fois, je pense que on parlait de cadre tout à l'heure, et le fait que vous ayez déménagé et quitté le 93 a dû vous faire énormément de bien, comme vous le disiez. Et
Oh
ça a enlevé, vous savez, une pression, cette violence qu'il y avait autour de vous. Quand vous sortiez dans cette cité, est-ce que, comme dans pas mal de cités du 93, il y avait ces guetteurs, ces cris un peu partout liés au deal. Est-ce que c'était une situation comme ça que vous viviez?
Disons en fait que comme je ne sortais pas beaucoup, c'est vrai que je voyais plusieurs bandes de jeunes en bas, et c'est vrai que bon, bien sûr, je devais sortir pour, je sais pas, aller chercher une bouteille de lait à l'épicier du coin ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que quand je sortais, je regardais toujours autour de moi, voir si on me suivait pas. Et puis dès qu'il y avait une bande de jeunes qui était agroupée quelque part, limite je courais pour rentrer le plus vite possible chez moi.
Vous avez vécu un traumatisme long, en fait, et un traumatisme constant. Je me rappelle, hein, moi, quand j'avais 13-14 ans, toute manifestation de violence me heurtait beaucoup. Alors, j'étais un garçon, mais je suppose que pour une fille, il doit y avoir aussi une perception encore plus lié à l'agression, parce que vous deviez avoir toutes ces choses-là dans la tête, en fait. On avait dû vous en parler, même, qu'il fallait faire attention.
Oui, une fille qui se fait agresser dans la rue ou quelque chose comme ça par une bande de jeunes. Oui, tout à fait. Il y avait aussi ça aussi. Le fait, je l'ai pas évoqué, mais le fait aussi qu'il y avait beaucoup de voitures qui brûlaient en bas dans les sur le parking. Les bandes de jeunes, quand s'il y avait des, comment on appelle ça, des batailles de, pas de gangs, comment je pourrais dire ça,
Des
deux
batailles
bandes de jeunes.
de bande, oui.
Bien sûr, ça partait très vite en grosse bagarre. Et il y avait beaucoup de voitures qui brûlaient. Il y avait toujours quelque chose dans cette cité. Et on n'était jamais tranquille. Jamais.
Et ça, c'est quelque chose qui vous a marqué, on le sent énormément.
Ouais.
Parce que là, en quittant cet environnement, déjà, vous êtes arrivé où dans un. À la campagne ou dans un quartier résidentiel, c'est quoi le changement que vous vivez aujourd'hui?
Disons que là, actuellement, je suis dans un. C'est pas la campagne, c'est la campagne rurale, on va dire. Voilà, c'est la campagne, mais il y a quand même beaucoup de maisons. Il y a quand même. Alors, je pourrais pas vous dire le nombre d'habitants exact, mais c'est quand même animé. Il y a des commerces, il y a des fêtes qui se font de temps en temps. Voilà, il y a quand même de l'animation, quand
Oui, mais
même.
ça
Mais de
ressemble.
l'animation.
Ça ressemble plus à une ville, en fait. Ça n'est pas
Voilà, un petit village,
un
voilà,
petit
oui.
village. Ouais. Et ça a changé beaucoup de choses pour vous, ça.
Tout à fait. Ça fait un petit village médiéval. J'aime beaucoup cette ambiance médiévale. J'aime énormément cette époque-là. Et c'est vrai que c'est de la bonne animation, quoi. Je veux dire, ici, il n'y a pas du tout de violence. Il n'y a pas de gang. Il n'y a pas tout ça, quoi. C'est vraiment agréable.
Et donc
Il y a
c'est
le loin et tout. Donc c'est un petit une espèce de petit petit fleuve, pardon.
Ouais.
Donc on peut se balader, voilà, l'été, c'est très agréable en fait.
Ben oui, ça a beaucoup changé pour vous, énormément. Et vous voyez,
c'est radical en fait.
Ben oui, c'est radical. Et j'évoquais au début de cet entretien le fait que vous y ayez été confronté à un monde qui n'était pas le vôtre. Vous voyez, c'est vraiment important cette image-là. Parce que quand on est enfant, et à 13-14 ans, on est pré-ado, hein, on est encore un grand enfant, ou une grande enfant. Et donc être confronté à cette violence que je connais. Hein, ceux qui ne connaissent pas, peut-être auront du mal à comprendre que l'on peut être extrêmement angoissé par cette ambiance-là qui est oppressante, qui est tout le temps là. Mais qui peut instaurer un climat qui fait qu'on devient paranoïaque, quoi. Est-ce que la paranoïa, ça vous parle ? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est très vite installé chez vous ?
La paranoïa, non, je pense pas trop que ça se... Non, je pense pas, non.
Avoir peur qu'il vous arrive quelque chose, vous appelez ça comment ? Est-ce que c'est de la paranoïa ou est-ce que c'est autre chose pour vous ?
Ça peut être une forme de paranoïa. Oui, c'est vrai que je suis toujours en train de me poser la question, qu'est-ce qui va m'arriver ? Même quand je fais des spectacles, c'est vrai que 2-3 jours avant, je me dis, est-ce que je vais tout retenir ? Est-ce que je vais pas tomber ? Est-ce que je vais pas avoir un trou de mémoire ou quelque chose comme ça ? Est-ce que je vais être bien, surtout ? Et puis, au final, en général, quand je suis dans l'ambiance du spectacle, que je discute avec ces bonnes personnes, je suis vraiment une toute autre personne. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est un mystère.
C'est la pression.
Même pour les gens qui m'entourent.
C'est la pression, en fait. Hein. Y a aussi une chose sur laquelle il faut que vous travailliez, c'est la gestion de la pression. Et pour ça, il y a différentes techniques hein, de respiration. Moi, je pensais au yoga aussi pour vous. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez tenté de faire ça.
Non, jamais.
Jamais. Mais je suis sûr qu'autour de vous, là-bas, il y a obligatoirement, parce que c'est en plus de plus en plus répandu, le yoga apporte énormément. D'abord, au tout début, la respiration. Voilà, on travaille beaucoup sur sa respiration et donc et ensuite on apprend petit à petit à découvrir son corps, en tout cas la maîtrise de son corps, la maîtrise de sa respiration. Et la respiration peut amener énormément de contrôle, de quelque chose de l'ordre de je respire, je contrôle ma respiration, donc tout va bien. Et plus je prends de l'air, plus je contrôle ce qu'il y a en moi, et plus, vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de la méditation qui s'installe finalement au bout d'un moment quand on fait du yoga. On arrive à rentrer dans une phase, après quelques minutes de pratique, une phase où on est beaucoup plus en connexion avec soi-même et où fait on développe en même temps que l'on fait ces figures de yoga, on arrive à sentir mieux son corps, ressentir mieux tous ses sens, son attention, sa capacité à rester en équilibre, sa capacité à respirer, à étirer un peu plus à un moment un muscle. Et donc, ces choses-là, je pense que le yoga peut aussi vous faire du bien parce que vous avez aujourd'hui, il me semble, vécu trop de situations d'insécurité comme ça qui vous ont mis déjà dans ce questionnement, qu'est-ce qui va m'arriver ? Qu'est-ce qui va m'arriver ? Dans ce milieu hyper violent, dans lequel je me sens toute petite, et quand je sors acheter une bouteille de lait, qu'est-ce qui va m'arriver ? Vous avez été témoin de pas mal de choses violentes aussi, donc c'est assez traumatisant ça aussi. Moi, je sais que à chaque fois que je vois des gens se battre, voyez, c'est quelque chose qui me provoque une sensation physique très désagréable, une angoisse.
Comme si que c'était nous qui nous
exactement. Exactement. comme si c'était nous qui avions été un peu là.
C'est ça.
Et en fait, on prend parti à ce qui s'est passé parce qu'on est de la, on appartient à cette humanité. Donc voir deux personnes ou plusieurs personnes se battre et se comporter comme des sauvages, on a aussi un peu l'impression d'être responsable de ça ou d'appartenir à ça, alors qu'on n'a rien à voir avec ça. Mais ça, c'est aussi de l'hypersensibilité. Vous êtes hypersensible aussi. Vous avez cette capacité à être en phase avec votre environnement parce que vous avez conscience de vivre dans cet environnement et de faire partie de cet environnement, de faire partie du mouvement de cet environnement. Et donc, lorsque cet environnement disjoncte, vous voyez, quand il ne marche plus comme il faut, alors à travers cette violence, à travers un feu, une bagarre, des mots prononcés avec colère, avec haine, la voix qui s'envole, là, les cris, ce sont des choses que vous percevez autrement que les autres. J'ai l'impression que vous avez cette sensibilité-là qui vous met en connexion avec des situations, en fait. Et aujourd'hui, cette pression que vous vivez avant d'écrire votre nouvelle vidéo, avant de monter sur scène ou avant de en préparant ce spectacle, dès que vous vous projetez, il y a une pression qui s'installe et cette pression, vous avez du mal à la gérer.
C'est vrai. Je travaille dessus, mais c'est comme vous l'avez dit, c'est vrai que le cerveau, le subconscient, il est très, il est très très fort.
Ben oui, mais il est très très fort, mais il y a beaucoup d'espoir d'arriver à vous débarrasser de ça si vous trouvez le bon chemin pour y aller, sans obligatoirement identifier ces choses-là précisément, vous voyez, avec des mots, puisque tout n'est qu'une question de vécu, de ce que vous avez ressenti à tel ou tel moment et comment vous l'avez digéré, vous voyez, comment vous en avez été imprégné dans ce subconscient. Et souvent, vous avez l'air d'avoir vécu des choses violentes, de la peur, vous avez vécu de la peur. Et cette peur, elle s'est répétée. En fait, lorsque je vous parlais de situation d'instabilité, vous voyez, de ne pas être en sécurité, situation d'insécurité, ça vous parle, ça ?
Oui, ça me parle, oui, bah oui, bien sûr.
Lorsque je vous parle de cette situation d'insécurité, vous pensez à quoi ? À quelle image ?
Être abandonné, peut-être.
D'être abandonné par qui, en fait ?
Par la famille surtout.
Ouais. Et pourtant.
De perdre des gens, etc. C'est vrai que c'est pas agréable du tout, quoi.
Ouais. Donc vous êtes déjà, vous voyez, dans la projection de choses quand même extrêmement dures, extrêmement tristes. Et je pense qu'il va falloir que vous travailliez là-dessus sur le fait d'arrêter de vous projeter aussi. Vous voyez, souvent on dit à quelqu'un qui essaie de se sortir d'une addiction ou de se sortir d'un stress comme ça. Parce que souvent, les gens stressés, les gens angoissés se projettent trop loin. Et donc, ils se mettent trop de pression.
C'est vrai.
Vous voyez,
c'est ce qui m'arrive, oui.
Ouais. Quand on parle de burn-out aussi, ici, beaucoup, on a affaire à des personnes qui... L'autre jour, vous voyez, je discutais avec une psychologue dont c'est le métier de soigner les autres, vous voyez, et parce qu'elle se projetait trop, parce qu'elle voulait trop en faire, parce qu'elle s'investissait trop aussi, et qu'elle avait peur de mal faire, donc projection sur l'avenir. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'il ne va pas y avoir ça et ça qui va se passer? Ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est notre cerveau qui produit ça. C'est l'invention de notre cerveau. Parce que dans le moment X, là, le moment où on est en train de parler ensemble, Je ne vous sens pas angoissée en ce moment.
Non, parce que c'est un environnement, bah, tout ce qui est voilà, audiovisuel, radio et tout ça. J'ai fait quelques émissions de radio aussi.
Oui.
Et c'est vrai qu'avant, j'étais hyper angoissée. Puis dès l'instant que je me mets à parler au micro avec l'animateur ou l'animatrice,
oui.
Bah, c'est une autre personne. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une autre personnalité que j'ai. Et même moi, c'est vrai que j'arrive pas à expliquer le comment du pourquoi.
Et pourquoi ça, à votre avis ? Si vous analysez ça, voilà ce que vous venez de me dire exactement. Pourquoi, à votre avis ? Pourquoi, au moment où vous parlez, et donc où vous vous concentrez sur l'idée que vous êtes en train de véhiculer, l'idée que vous êtes en train de développer, le ton que vous mettez, et à la rigueur, à penser à celui qui est en face de vous, si vous le voyez les yeux dans les yeux, si vous ne le voyez pas, l'imaginer, en tout cas, entendre sa voix, vous... Vous concentrez sur cette voix. Comment se fait-il que vous êtes détendu complètement?
Je sais pas. Ça doit être le fait que c'est un. Comment je peux dire ça? C'est une sorte de bulle dans laquelle voilà. Je me sens bien à l'intérieur. C'est un petit monde voilà que j'aime énormément. Tout ce qui est télé, tout ça, faire des plateaux télé, des émissions radio, c'est vrai que je sais pas, ça doit être c'est une sorte de cocon. Franchement, je sais pas comment l'expliquer vraiment.
Et au-delà, au-delà de cet aspect bulle, cocon, est-ce que vous n'avez pas l'impression que lorsque vous êtes dans cet environnement-là, que vous vous concentrez, que vous êtes dans votre élément, vous vivez l'instant présent et que là, il n'y a plus de projection, il n'y a plus de cerveau qui raconte qui va se passer ci, qui va se passer ça. Vous ne pensez plus à un élément extérieur qui peut venir vous faire quelque chose ou provoquer quelque chose qui va vous arriver. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi cette dimension-là de moment...
C'est peut-être ça, oui.
Vous devriez réfléchir à cette notion-là, par rapport justement à la projection, voyez, à ne pas trop vous mettre la pression. Quand vous écrivez votre vidéo, essayez de vous dire, en fait, quand vous sentez tout de suite que vous vous projetez, qu'est-ce qui va maintenant arrêter et reprendre votre crayon et vous dire, tiens, je vais peut-être, faire un croquis de ça, comment la scène, elle serait faite, où est-ce qu'on pourrait disposer ça, ou alors... Tiens, quelle danse je pourrais faire là? Qu'est-ce que ça veut raconter? Vous remettre dans cette bulle dont vous parlez. Vous voyez? Vous créez ce monde-là avec vous. C'est-à-dire, vous connecter à vous et finalement réfléchir, produire, créer, en fait. Parce que vous êtes une créative. Vous avez la fibre artistique, là, avec... Shakira, avec la danse, avec les chanteurs autour, avec cette radio que vous faites de temps en temps, avec cet environnement. En fait, concentrez-vous sur justement votre capacité à créer, votre capacité à justement être dans l'instant. Dans l'instant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Dans cet instant-là, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Non, l'angoisse que j'ai, c'est parce que j'ai pensé à éventuellement... si on tombe en panne de sono, qu'est-ce qui va se passer? Ou alors s'il y a des gens dans le public qui me regardent. Non, ça, c'est de la... Vous voyez, c'est de la projection. Dans cette angoisse, elle se nourrit de ça. Cette angoisse, elle ne va pas se nourrir de choses qui sont douces à votre esprit, qui sont douces pour vous. Et donc, du coup, quand je vous dis de travailler sur cette le fait justement de ne pas penser à ce qui va arriver, de travailler sur justement à couper cette projection, je pense que ça peut vous faire extrêmement de bien. Et c'est pour ça que je vous évoquais... alors les psys, vous avez essayé. Visiblement, ça n'a pas connecté, bien que je pense que vous n'êtes pas tombé sur celui qui vous correspondait.
Peut-être.
Parce que il y a aussi une histoire de il y a aussi une histoire de ça dedans. C'est de trouver la personne avec qui hop, ça connecte. Vous voyez,
oui, une sorte de confiance.
Voilà, c'est pas obligatoirement dans ceux que vous avez rencontrés, ça ne veut pas dire qu'ils étaient mauvais ou qu'ils n'étaient pas assez bons, mais parce qu'il y avait quelque chose dans l'ADN humain qui n'allait pas avec vous. Vous voyez, ça ne collait pas comme ça aurait dû coller. Mais peut-être qu'à un moment, vous tomberez sur la ou le psy qui vous donnera confiance et à qui vous aurez envie de raconter tout ça, qui vous aidera à cheminer et qui mettra sans doute, de par sa sensibilité, il détectera peut-être chez vous exactement ce qu'il y a, comme moi je le sens ce soir. C'est que je pense que vous devez travailler sur l'instant présent. Dans le yoga, on demande... Voilà, et demander de se concentrer sur sa respiration, de se concentrer sur son équilibre, de se concentrer sur nous, en fait. Là, maintenant. Juste l'instant présent. Tout ce qui est de l'ordre de l'imagination, la projection, dans 10 minutes, dans 1 heure, dans 12 heures, demain, dans 15 jours, quand je ferai mon spectacle, dans 2 heures, quand il va falloir que je mette ma vidéo en ligne. Non, c'est maintenant qui compte. C'est maintenant ce que je suis en train de faire. C'est maintenant que, si je ne me sens pas bien, j'ouvre une porte et puis je vais prendre une tasse de thé avec ma mère ou ma sœur et parler de trucs qui me font plaisir. C'est être dans l'action pour soi. Vous en pensez quoi, ça ? Vous sentez capable de ça ?
Oui, tout à fait. Après, moi, je travaille sur moi vraiment au quotidien. Et puis tous les conseils que vous m'avez prescrits ce soir, c'est vrai que je vais essayer de les appliquer. Je ne dis pas que ça va fonctionner du premier coup.
Non, mais rien ne fonctionne du premier coup, ne vous inquiétez pas.
C'est... Oui, voilà, c'est ça.
Mais je
vais essayer.
Mmh. Comme en fait, vous m'avez dit que, vous voyez, ce changement d'environnement, vous avez fait extrêmement de bien. Je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel vous devez capitaliser. Vous voyez, tirer l'enseignement, voilà, la chaleur de cette chose-là. Bon, quand je parle de chaleur, c'est de sens, c'est la chaleur, le bonheur que ça peut procurer d'aller mieux et de pouvoir s'expliquer finalement. Je vais mieux parce que j'ai quitté cet endroit violent, j'ai quitté cet endroit qui me faisait peur, j'ai quitté ces gens violents, ces gens qui ne pensait qu'à se battre ou en tout cas qui faisait de ce monde, de mon environnement à moi, un monde moche. Et aujourd'hui, voilà, je suis dans un truc qui est plus joli, plus calme pour moi et donc je vais mieux. Donc ça veut dire que en additionnant plusieurs choses comme ça, eh bien ça va me porter un peu plus loin encore dans ma connaissance de ce qui est bon pour moi et se faire du bien. Je pense. Et ces vidéos là, alors, parce que vous n'allez pas me quitter sans me dire où je peux vous regarder, si vous avez envie qu'on vous regarde. Hein. C'est l'occasion. Bien sûr. Là, hein. C'est l'occasion. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ?
Alors j'ai donc une page, une chaîne YouTube, pardon. Donc c'est Ophélie Vandena.
Oui.
Ma page Facebook, c'est exactement le même nom. Après, et Instagram aussi et Twitter, voilà, c'est tout est Ophélie Vandena en fait.
Alors Ophélie Vandena. Hein.
Vandena.
Vandena avec un V comme oui. Valérie.
Voilà, c'est ça.
V A N D E L A.
C'est ça, tout à fait.
Ok, super. Et donc c'est sur YouTube.
Voilà.
Donc si on est fan de Shakira, on peut aller voir votre travail sur YouTube. Est-ce que vous avez combien d'abonnés?
Sur YouTube, 174, je crois.
C'est super, super. Et donc, ils font aussi, vous échangez. Il y a d'autres personnes qui font ça aussi, qui font des vidéos de Shakira ?
Oui, bien sûr. Après, bon, bah, c'est chacun fait sa chaîne personnelle sur Shakira. Moi, si vous voulez, je fais des analyses de clips quand elle sort un clip, une chanson ou un nouveau parfum. Bon, malheureusement, avec les lois YouTube, maintenant, je ne peux plus trop mettre de vidéos de danse avec les droits d'auteur, etc., vu que je ne chante pas en vrai. Donc, maintenant, c'est plus des unboxings de parfums, de coffrets, de choses qui sortent sur elle. Voilà, donc après, bon, bah, y en a qui vont faire des tutoriels de danse, d'autres qui vont analyser que les clips. C'est vraiment très varié. Et j'échange avec pas mal de, surtout pas mal de fans d'Amérique latine.
D'accord. Ah oui, les nouvelles lois, c'est vrai qu'on n'a plus le droit de mettre un clip et de se mettre devant, on n'a plus le droit
Ouais.
de faire du playback, c'est ça? C'est interdit,
Oui, voilà,
ça?
c'est ça, oui.
Ah. Ouais, c'est une drôle de loi, ça. C'est vrai que j'ai fait ça, moi, hier, avec un morceau de musique. En fait, j'ai mis une petite marionnette devant et donc Instagram m'a enlevé la vidéo. Et je ne savais
Ouais,
pas,
voilà.
j'étais pas au courant qu'on pouvait pas faire ça, vous voyez?
Même en trafiquant un peu le son, maintenant on ne peut même plus, donc on est obligé de mettre de la musique libre de droit, mais
Ouais.
je trouve que ça enlève, voilà, la thématique de la vidéo. Si on met une musique libre de droit, bon, bah, elle parle de Shakira, oui, d'accord, mais bon, il manque le son du clip, quoi.
Ouais.
Donc c'est très pénalisant. Je mets de moins en moins de vidéos.
Bon, bah écoutez, en tout cas, je pense que cet entretien vous aura fait du bien, je le sens.
Oui.
Bon, et n'hésitez pas à me tenir au courant, d'accord? Me
D'accord.
rappeler, me raconter comment ça va. Ok?
D'accord, ça marche.
Je vous embrasse, Ophélie, et puis bon courage.
Mais
Et puis
moi de même.
je vais aller de ce pas vous regarder.
Oh, merci, c'est gentil.
Hein. Je vous embrasse, passez une belle nuit.
Au
Au
revoir,
revoir.
merci.
Chers amis, c'est la fin de cette libre antenne. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Moi, c'était très agréable. Et puis, bien évidemment, on se retrouve demain à partir de 22h30. Salut!